faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
La légende du football, Diego Maradona n'est plus. Les clubs de Boca Juniors, de Barcelone, de Naples, tous pleurent le numéro 10 argentin, foudroyé par une crise cardiaque à 60 ans. Le président du club de Naples envisage déjà de renommer son stade pour l'appeler San Paolo Maradona. En Argentine, le gouvernement annonce 3 jours de deuil national.
Ce soir, c'est l'histoire d'un enfant de la plèbe, né en Argentine, devenu le héros planétaire de tous les 100 grades. C'est aussi l'histoire d'un homme qui sait mieux que personne que la roche tarpéienne n'est pas très loin du Capitole. Mais c'est surtout un destin shakespearien. Être ou ne pas être, Diego Maradona. Ce soir, je suis un gamin en or, mais je suis entouré de démons. Ce soir, tu as l'œil du tigre et tu es immortel. Plusieurs fois, la grande faucheuse était venue frapper à la porte de Diego. Maradona l'avait congédié avec dédain. C'est le luxe de ceux qui ont un goût persévérant pour l'insoumission. Néanmoins, c'est la règle. Personne ne sort d'ici vivant et le petit prince est mort mercredi. Il avait 60 ans. À l'affiche ce soir, donc, retour sur cette vie à tombeau ouvert avec 3 invités au micro d'Inter, 2 journalistes français et 1 romancière argentine, Vincent Duluc, Didier Roustan et Alicia Ortiz. Et puis, juste avant le journal de 19h, la victoire en chantant de Pierre-Étienne Minonzio. Et ce soir, lui aussi reviendra sur les chansons qui ont célébré le céleste en short et crampons. Vous êtes bien sur France Inter dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. Au menu ce soir, le catafalque de Diego Armando Maradona.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors on débute cette émission hommage consacré à Maradona avec une des grandes signatures de la presse sportive française, journaliste à l'équipe, écrivain de talent, amoureux mélancolique du football. Je suis très heureux de l'accueillir ce soir. Vincent Duluc, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Alors Maradona est enterré jeudi, les images ont fait le tour du monde, bien sûr, les images du cortège funéraire m'ont beaucoup ému parce qu'elles m'ont fait penser, Vincent, à celle de Garrincha, à l'enterrement de Garrincha en janvier 83 à Rio. Pourquoi je parle de Garrincha? Parce que, quelque part, ils se ressemblent un peu, Diego et lui, parce qu'ils étaient tous les deux des joueurs extraordinaires, mais aussi fracassés par la vie. Garrincha était un grand joueur un peu abîmé, mais aussi alcoolique à la fin de sa vie, mais ils sont restés l'un et l'autre la joie du peuple, Vincent Duluc. Qu'est-ce qu'elles vous ont inspiré à vous, ces images du cortège funéraire de Diego jeudi après-midi?
Mais elles m'ont inspiré beaucoup d'émotions de voir que sur les ponts de l'autoroute où passait le cortège, escorté par des centaines de motos, de scooters, de voitures, les gens cherchaient encore à parler à Diego, s'adresser à lui. Merci Diego, en voyant passer le corbillard. C'était vraiment émouvant. Ça dit tout le lien qu'il y a entre un joueur d'exception et le peuple qui l'a fait roi. Je sais pas s'il a été tout le temps le joueur du peuple, s'il a tout le temps été à la hauteur, en tout cas, de cette étiquette, mais il a toujours eu cet amour inconditionnel du peuple argentin. J'ai du mal à trouver mes mots, mais en fait, on s'était tellement fait à l'idée que ça allait arriver, et plus tôt que plus tard, que malgré tout, on n'avait pas anticipé ce déferlement d'émotions et qu'on a ressenti pour nous-mêmes. En fait, je pensais être un peu plus détaché et je l'ai pas été. Et je pense que comme la plupart des gens, la plupart des amoureux de foot, on a été un peu balayé par cette émotion universelle et populaire.
Cette semaine, dans l'équipe, Jean-Michel Brochen, un de vos camarades, a signé un article titré « Les enfants de Pelusa ». Pelusa, c'est un des surnoms donnés à Maradona, ça veut dire le pelé blanc, Pelusa. Papier dans lequel Brochen affirme que tous les amateurs de football se souviennent de la première fois où ils ont vu jouer Diego Maradona. Est-ce que vous vous souvenez de votre première fois Maradona, Vincent Duluc?
Et moi, je me souviens de ma première fois dans un stade, c'était déjà tard, c'était pendant la Coupe du Monde en 1990. Enfin, c'était tard pour mes contemporains, pas pour ceux qui connaissent Maradona pour le regarder à YouTube toutes les nuits,
et oui,
en boucle. Mais la première fois, pour moi, je pense que c'était un reportage de Stade 2. qui était la messe avant la vôtre, le dimanche en fin de journée, et dans lesquels il me semble qu'il y avait eu un reportage sur le jeune Maradona avant la Coupe du Monde 82, où il y avait un reportage sur ce génie argentin qui allait arriver, et je me souviens avoir été un peu déçu qu'il n'ait pas été dans la liste en 78, j'ai dit en 82, pardon, je voulais dire en 78, mm-hmm. qu'il n'ait pas été dans la liste en 78 de Menotti. Et puis en même temps, aujourd'hui, avec le recul, j'en suis forcément moins déçu, parce que je me dis qu'au moins qu'il n'a pas été associé à ce triomphe de l'Argentine des colonels. Donc c'était une échappée de plus à son actif.
Au rayon des premières fois, Vincent, j'ai vu que la première fois que Maradona a fait la une de l'Équipe magazine, c'était le 29 mai 1982, trois semaines avant la Coupe du Monde en Espagne. Le papier est titré « Naissance d'un mythe ». Diego n'a que 21 ans, il n'a pas encore fait grand-chose, on a envie de dire, mais Jérôme Bureau, qui signe le papier à l'époque, nous prévient que nous sommes face à un martien. Dès le départ, avec ce titre « Naissance d'un mythe », on a su que la vie de Diego serait romanesque. Pour quelle raison, Vincent Dubuc ?
Mais je pense qu'il y a des raisons objectives, et puis il y a forcément des raisons déraisonnables et très subjectives. Les raisons objectives, c'est que personne, sans doute avant lui, avait fait autant de choses aussi facilement avec un ballon. Le rapport de Maradona avec le ballon est quelque chose de magique. Et d'autres joueurs ont eu beaucoup de talent, mais c'était un talent autrement. Lui, le cliché, c'est de dire que le ballon était la prolongation de son... C'était le prolongement, pardon, de son pied. Mais lui, voilà, il créait de la magie à partir d'un ballon. Et toutes les images, on le voit jongler avec autre chose, montrent que voilà, qu'il c'était absolument un génie absolu. Donc il y avait la concordance de ce génie-là. Et la concordance aussi de la fascination qui nourrissait, enfin, qui suscitait très jeune. En Argentine, où les fans sont les plus passionnés de la Terre. Et puis il y avait enfin aussi, je pense, le sentiment qu'il allait avoir du mal, comment dire, j'allais dire à rester les pieds sur terre, mais Maradona, on va dire que la bonne taille, c'était quand son pied gauche touchait par terre, mais on sentait quand même, non pas que ça allait mal finir, parce que c'est un sentiment qui est venu un peu plus tard, je dirais qu'il est venu à la fin des années 80, pas avant, mais je pense qu'on sentait déjà qu'il portait une histoire plus grande que lui-même.
On va écouter la voix de Diego. Vincent, le 10 novembre 2001, Maradona a fait ses adieux à la pelouse, c'était son jubilé à la Bombonera, le stade mythique de Buenos Aires, devant une foule en fusion. Diego avait pris le micro et voici un extrait de son discours.
Dieu fasse que mon amour pour le football et que cette fête ne finisse jamais, tout comme l'amour que vous me portez. Merci au nom de mes filles, de ma mère, de mon père Guillermo et de tous les joueurs de foot du monde. Il n'y a pas de sport plus beau et plus sain que le football, que personne n'en doute. « Le football ne doit pas payer pour les erreurs de certains. Je me suis trompé et j'ai payé. Le football ne doit pas être sali. »
Quand on revoit les images, ce jour-là, l'émotion était immense dans la Bombonera. Et son honnêteté là, vis-à-vis de lui-même, Vincent, participe aussi à cette dimension héroïque. Il a souvent cherché la rédemption ou le pardon. Qu'est-ce qui vous touche le plus chez lui, chez Maradona, justement ?
Mais en fait, il a dû la chercher d'autant plus souvent qu'il a été très très au-delà des standards concernant les bêtises.
Eh oui.
Les petites et les grandes. C'est-à-dire qu'effectivement, il a sans arrêt navigué entre la culpabilité et le pardon, entre les ténèbres où il allait plus loin que tous les autres, et puis la lumière qui suscitait plus que tous les autres. Donc oui, forcément, on s'est attaché aussi forcément à un joueur qui était imparfait. C'est son imperfection même qui a permis une identification et qui c'est presque paradoxalement le fait qu'il ait été aussi ordinaire pour tout ce qui concernait les défauts humains qui en a fait une icône absolue dans le monde entier.
On a souvent reproché d'ailleurs à Diego d'être un tricheur, mais Diego vient de la rue. Il disait souvent j'ai grandi dans un quartier privé. Privé d'eau, d'électricité et de téléphone. Mais donc, c'est un quartier parfois où on est conduit à dribbler un peu la loi, j'ai envie de dire, Vincent. C'est-à-dire que ce n'est pas un voleur, c'est plutôt un dribbleur social. Ça fait une grande différence entre un voleur et un dribbleur social. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
Il faut être clair, ça fait une grande différence dans le mythe. C'est-à-dire qu'effectivement, ça justifie les écarts. Ça met à l'écart aussi le débat sur la morale. qui a quasiment pas existé dans la ou peu existé dans la glorification de Diego et dans l'hommage qui lui est rendu depuis cette semaine. Mais ça reste quand même compliqué parce que c'est tellement un personnage à deux faces qu'il est quand même difficile d'en choisir une seule et de pas vouloir regarder l'autre. Et c'est compliqué de le voir uniquement comme victime de sa propre gloire, comme victime de son talent, alors que parfois il a fait des choses que son enfance difficile suffise pas forcément à justifier, mais il l'a fait de telle manière et ça tellement c'est tellement constitutif de son mythe que c'est vrai qu'on n'arrive pas à séparer l'un de l'autre en fait.
Pour finir, Vincent Duluc, son coéquipier et ancien footballeur Gabriel Calderón a réagi sur Twitter cette semaine à la mort de son ami. Il a écrit « Je ne te juge pas pour ce que tu as fait de ta vie, je t'aime pour ce que tu as fait de la nôtre ». Ce sont des mots que comprennent tous ceux qui ont aimé Maradona, Vincent.
Oui, c'est sans doute la plus belle chose qui a été écrite cette semaine.
Je suis d'accord.
Sur Maradona. Alors la question se pose si c'est Calderón ou si c'est une citation. On se pose un peu la question. On a commencé à chercher un peu parce que la phrase est tellement magnifique qu'on voudrait savoir.
Mais oui, c'est vrai, c'est très beau. Ça lui va tellement bien.
Mais c'est exactement ça.
Ça pourrait être l'épitaphe sur sa tombe d'ailleurs.
Mais absolument. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une phrase qui raconte plus la fascination qu'il a suscitée malgré sa souffrance. Malgré les excès, malgré sa manière parfois un peu pathétique, de vouloir revenir sans arrêt dans un monde dans lequel il était peu adapté, mais on voit bien que ce qui reste cette semaine, c'est la trace de l'émotion, c'est la trace du génie, c'est une trace différente des autres. Vous aviez cité Garrincha en ouverture. Mais son autre petit frère, c'est probablement George Best aussi, qui est d'ailleurs mort 15 ans plus tôt, jour pour jour, à l'âge de 59 ans, alors que Diego est mort à 60 ans, et qui a suscité un mythe de même nature.
En tout cas, merci beaucoup, Vincent Deluc, pour votre intervention ce soir, et bravo pour votre excellent papier et votre dossier cette semaine consacré à Diego Maradona dans l'équipe. Merci beaucoup, Vincent.
Merci à vous.
À très bientôt. Salut. Je répète la phrase écrite par Calderón cette semaine sur Twitter à propos de la mort de Maradona. Je ne te juge pas pour ce que tu as fait de ta vie. Je t'aime pour ce que tu as fait de la nôtre. C'est quand même magnifique, en effet. On va maintenant réécouter une discussion tenue à ce micro en février 2017 entre l'écrivaine argentine Alicia Ortiz, accompagnée du journaliste Didier Roustan. L'un et l'autre ont côtoyé l'enfant terrible. Voici l'histoire de Diego Maradona. La légende raconte que le 30 octobre 1960, en route pour la maternité, Donna Totta, la mère de Diego Maradona, aurait trouvé une broche en or en forme d'étoile. Un signe du destin pour cette femme modeste, elle en est persuadée, son enfant qui va naître n'aura pas une vie comme les autres. Diego Armando Maradona, un gamin en or devenu dieu du football, tiraillé par ses démons. Diego, immortel héros populaire, enfant pauvre de Buenos Aires.
10 novembre 2001. Buenos Aires, c'est fini. Diego Armando Maradona effectue son dernier tour de piste chez lui, dans son stade fétiche de la Bombonera. Tout semblait oublié, tout pouvait recommencer dans cette bonbonnière déchaînée. Un beau moment de communion pour arborer l'un après l'autre ces deux maillots de cœur, l'argentin du devoir, mais plus encore celui de Boca la Pauvre, le club des sans-grades et des sans-avenir à jamais reconnaissant.
Alicia Durovne Ortiz, vous êtes romancière, poète, argentine, vous avez écrit sur Maradona, vous l'avez rencontré même. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Diego Maradona?
Au début, rien du tout, parce que j'appartiens à un groupe socioculturel argentin qui n'avait aucune idée du football. Mais j'étais déjà en France depuis plusieurs années. En Argentine, je ne rêvais que de venir à Paris, et à Paris, de quoi je pouvais rêver, sinon de cette culture nationale et populaire que j'avais laissée derrière moi. Donc, je l'ai découvert, j'avais vaguement entendu parler de lui, et je l'ai vu. Pour le Mondial 90, c'était une scène très mystérieuse. Et ce profil, beau il était, c'était un beau profil d'enfant du peuple argentin, l'alarme qui parcourait sa joue, les chanceliers Gaulle tout rose, tout triomphant devant lui, et les Italiens qui rigolaient. Je me suis dit, non, là il y a quelque chose de très étrange, il faut que j'aille à Naples pour voir ce qui se passe avec lui. Et c'est là, peu de temps après, que le monde est tombé sur sa tête, qu'on a découvert qu'il prenait la cocaïne, figurez-vous, hein. On ne le savait pas. Et qu'il avait des femmes, figurez-vous. Bon, grande surprise. Et le monde tombe sur sa tête, donc je téléphone encore à Naples pour parler avec lui. Évidemment, il ne sort pas au téléphone, mais je dis à son entraîneur, Signorini, qui était un poète, hein, qui après m'a raconté des choses extraordinaires sur lui, je veux écrire sur Diego. Alors il m'a dit, bon, il te remercie, mais c'est lui qui veut écrire sur lui-même. Et donc je lui ai dit, mais je regrette, mais je vais le faire.
Je vais quand même le faire.
Je vais le faire. Mm-hmm. Donc il quitte vaincu et en larmes Naples, et je vais juste après. Et tout Naples était comme une femme abandonnée. Les gens pleuraient en parlant de lui, et donc je parlais dans la rue avec les tifosi. Je suis allée au centre de Palumella, qui était les tifosi les plus connus. Je parlais avec des gens de la Camorra, je parlais avec des intellectuels, avec des gens sérieux, avec des gens pas sérieux, et les Napolitains me disaient très souvent, ah, signora, lei potrebbe essere mia mamma. Ah, madame, vous qui pourrez être ma mère, à vous, je vous raconterai tout. Et ils m'ont raconté effectivement pas mal de choses.
Avec un livre extraordinaire, Maradona, c'est moi, publié aux éditions de la Découverte. Didier Roustan, vous observez le football depuis longtemps. Didier, vous êtes un amoureux du football romantique. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Diego Maradona?
Ben, il représente bon le romantisme absolu et l'essence de ce sport qui est populaire, quoi. Si vous allez à Villa Fiorito, si vous fréquentez un peu Maradona, même si il voyagera en première, il sera dans des tenues excentriques, Dolce & Gabbana, etc. et tout. C'est quelqu'un qui est resté profondément simple et profondément populaire. Et c'est pas innocent si il a joué à Naples, qui est un club populaire par excellence, et s'il a joué à Boca Junior.
Boca Junior, c'est un club de Buenos Aires très populaire.
Voilà, dans le quartier de la Boca, qui est un quartier très, très touchant, mais effectivement très, très populaire. C'est le club... Oui, c'est un club qui n'est pas pauvre, mais voilà, c'est le Naples argentin, si vous voulez. Donc c'est quelqu'un quand même, quelque part, qui est totalement invertébré, pour des tas de raisons qu'on expliquera peut-être un peu plus tard, mais qui a une forme de cohérence dans ce qu'il a fait, dans son camino, et c'est en cela, c'est quelqu'un de vrai, même s'il s'est contredit, même si un jour il a dit noir, il a dit blanc, mais au fond de lui, et pour l'avoir effectivement côtoyé, c'est quelqu'un de vrai et d'extrêmement touchant.
Il est né en octobre 1960, et je crois qu'on peut le dire, c'est vraiment un enfant qui est né dans un bidonville de Buenos Aires. Oui. C'est un enfant de la misère, Alicia,
oui,
Diego Maradona.
De la misère, qui a appris à jouer comme il faut jouer, pas sur une pelouse bien propre, mais en écartant des canettes, de bouts de verre, et c'est là qu'il a développé cette chose extraordinaire et qu'il a développé sa jambe gauche. Mm-hmm. Quand il a commencé à être reconnu quand il avait que 10 ans, on pensait qu'il avait eu la poliomyélite parce qu'il avait sa jambe droite, elle était toute maigre, et la jambe gauche était monstrueuse, avec
très
ce
musclé.
Pied incroyable, mm-hmm. très musclé. Mm-hmm. Et puis cette forme physique qu'il a, quand il est né, non seulement Doña Tota, sa mère, a trouvé une étoile par terre, mais on lui a dit, félicitations madame, votre fils a des grandes fesses. Mm-hmm. Et bien ça fait partie de ce corps incroyable, de jambes très courtes qui lui permettent de courir comme une araignée dans le terrain, pas comme les grands mains ceux qui perdent du temps, alors que lui est tout près de la terre, et les fesses rebondies, et cette espèce de... des choses imantées qu'il avait dans son corps, la capacité de jouer avec le ballon pendant des heures, le ballon sur sa tête, sur son pied, et il avait le ballon, comme on dit toujours en Argentine, vous le savez, il allait, peut-être ici aussi, il a le ballon collé au pied et les fesses. Donc il pouvait, depuis l'âge des 3 ans, quand on lui a offert un vrai ballon en cuir, et il dormait enlacé à son ballon en cuir. Donc il est l'enfant de ces lieux. Et c'est ça qui l'a fait aussi, après, ne pas supporter la solitude. Non seulement il était drogué depuis l'enfance par le succès, la télévision et tout, mais il ne supportait pas la solitude, parce qu'un bidonville n'a pas des
barrières. Déjà,
des barrières, bien sûr, oui. Dont toute sa famille était autour de lui, et tout le quartier était autour de lui. Mmh. Quand on voit des photos de Maradona petit et jeune et tout, il y a que des gens qui l'entourent avec des mains sur sa tête, sur ses épaules, il a toujours été en tribu.
On parle de sa famille, parents très importants dans la vie de Diego, Diego et Doña Tota, très importants, Didier, ils seront là du début à la fin. Père ouvrier qui a tout sacrifié pour que Diego puisse jouer au football, et jusqu'à la fin de leur vie, ils seront autour de Diego, même dans les moments les plus difficiles.
Oui, et pas d'une manière hystérique. Mm-hmm. Ce sont des gens tout à fait charmants, tout à fait simples, à se mettre toujours en retrait, qui n'ont pas recherché ni l'argent, ni le succès. Vous savez qu'il y a des parents, des fois, qui deviennent fous par rapport à ça, surtout quand vous sortez de cette pauvreté. Pour avoir vu Villa Fiorito en 95, j'ose pas imaginer.
C'est là où il est né, c'est là où il est né. C'est le bidonville.
J'ai vu sa maison, tout ça et tout. J'ose pas imaginer quelques décennies auparavant comment ça pouvait être. Et ces deux parents, ils les aimaient profondément. Ça a été quelque chose, je veux dire, des bons points de repère pour lui, parce que si vous ne connaissez pas Maradona, l'image que vous en avez, c'est que c'est un voyou qui ne respecte rien, qui parle pour un oui, pour un non, qui est vulgaire, etc. et tout. Alors que c'est une personne qui est, comme je vous l'ai dit, assez simple, mais qui a aussi une vraie morale. Alors sa morale à lui aussi, parce que c'est un enfant, je veux dire, d'où il sort, et malheureusement dans ses fréquentations, il n'a pas connu que du bon. Mais derrière lui, il y a toujours une forme de morale qui est assez saine, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un. Si je peux vous donner une petite anecdote très rapide. Voilà, c'est quelqu'un, s'il a le coup de cœur pour vous, ce que vous représentez, etc., la mauvaise image que vous avez, il s'en fout. C'est quelqu'un de libre. Ben Johnson, si vous voulez, à partir du moment où on a su qu'il y avait le dopage, anabolisant, etc. et tout.
Donc sprinter s'est fait choper.
Le Canadien qui s'est fait choper aux 100 mètres, etc. pendant les Jeux Olympiques. Ça a été quelqu'un de pestiféré. Ça veut dire que personne ne voulait l'approcher. Et si vous le croisiez dans la rue, si vous voulez faire une photo avec vous, si vous étiez quelqu'un de connu,
c'était là où il fallait partir.
Eh bien, Maradona est allé à Toronto le voir, parce que Ben Johnson devait l'entraîner. Alors vous imaginez, effectivement, les on-dit, parce qu'entre le dopé, oui, Ben sûr. Johnson, etc. et tout. Et lui, il n'en avait rien à faire, et il a été très ami avec Ben Johnson. Voilà, c'est quelqu'un de libre, et qui, du coup, se met en danger. Il ne pense pas à son image. Et je trouve ça très beau aussi, à une époque où les gens font tout en fonction du qu'en dira-t-on, de mes sponsors, etc.
Alicia Ortiz, on peut lui reprocher beaucoup de choses à Diego. La triche, les excès, le dopage, la drogue. Mais quand même, il n'a jamais trahit finalement les gens qui lui ressemblent. Il est toujours l'incarnation de l'espérance pour le peuple argentin. C'est vrai ça ou pas?
C'est tout à fait ça. Et c'est ce qui est arrivé à Naples quand il est arrivé après avoir joué à Barcelone, qui est une ville assez raciste, où il était considéré comme un sudaca, c'est-à-dire un petit latino-américain, indien, de rien du tout. Là, il souffrait beaucoup. Et quand il arrive à Naples, bon, déjà sa grand-mère était d'origine napolitaine, il comprend qu'il y a deux Italies. Et il incarne l'Italie du Sud, l'Italie des basanés, des petits, des bruns, des humiliés, ceux que dans le nord de l'Italie on appelle les Africains. On dit dans les matchs, les nègres, bienvenue en Italie quand il a, parce que c'est
important, Lisa. Quand les joueurs de Naples viennent jouer dans le nord de l'Italie, il y a des banderoles dans les stades, bienvenue en Italie aux Napolitains. Et bienvenue aussi aux champions d'Afrique du Nord. Enfin, voilà. Il y a du vrai racisme anti-sud italien.
Et Hitler a presque fini avec les Juifs, mais il manque les Napolitains. Mais c'était ça. Et Diego comprend ça tout de suite, parce que cette humiliation du peuple napolitain à avoir profondément avec la sienne. L'Argentine aussi est un pays raciste. Il n'y a pas un pays qui ne le soit pas. Donc lui, il a été toujours les petits basanés. Et quand il arrive à Naples, il incarne ça, mais consciemment. Hein. C'est vrai ce que vous dites sur sa morale. Mmh. Il n'a pas trahi ce qu'il y a de plus profond chez lui.
Jamais.
Il a incarné ce peuple-là partout dans le monde. Mmh. Je l'ai connu seulement après la publication de mon livre à Séville. Et il m'a dit, tu crois que j'aime les Espagnols ? Les seuls Espagnols que j'aime, c'est les Gitans. Mmh. Voilà. Et les Napolitains, c'est des Gitans à leur manière. Pasolini a dit que les Napolitains, c'est une tribu des Gitans en dehors de l'histoire. Maradona se situe à ces places-là. Mmh.
Ça, c'est vraiment important, hein, Didier, parce qu'on n'imagine pas assez combien le peuple napolitain lui est redevable, parce qu'il a tout d'un coup rendu un honneur perdu. Naples, c'était une grande ville dans l'histoire de l'Europe. Et tout d'un coup, Diego vient de rapporter le titre. Il est champion d'Italie, un titre de Coupe d'Europe. C'est la revanche des humiliés, Diego, à Naples.
Oui, parce que, comme on vient de l'expliquer, tout se passe au niveau de l'Italie du Nord. Et la presse aussi, c'est l'Italie du Nord. La Gazzetta dello Sport, etc., Tutto Sport, à Turin et tout. Donc, c'est très compliqué pour lui, parce que, outre le fait qu'en plus, l'équipe de Naples, footballistiquement parlant, quand il arrive, est relativement faible. Donc, le premier titre, il va le gagner quasiment à lui tout seul.
Oui, bien sûr.
Après, viendront Brésiliens comme Carica, les Mao, Dibani, etc. Bon, bref. Mais au-delà de ça, il va rendre aux Napolitains leur fierté. Eux qui perdent tous les jours au quotidien, eh bien, ils vont gagner et ils vont gagner, en plus, dans le sport roi en Italie. Et ça, c'est fondamental pour les gens.
L'œil du tigre.
Naples, au bord de la ruine, titre Libération, a fait un accueil délirant aux deux jambes les plus chères du monde. Dans les ruelles, la vente continue.
Philippe Collin.
Drapeau Maradona, maillot Maradona, tango Maradona, et même des pizzas Maradona, avec des poulpes.
Sur France Inter.
Diego Maradona est arrivé à Naples le 5 juillet 1984. Quelques jours plus tard, lors de sa présentation au Stade San Paolo, un volcan en perpétuelle ébullition, 60 000 supporters napolitains sont venus l'accueillir comme le Messie. Oui, comme le Messie, car à Naples, Diego Maradona a endossé une dimension religieuse. Santa Maradona, priez pour nous, ainsi soit-il. Écoutez cette petite parabole napolitaine.
C'est un type qui se baladait dans Naples, et c'est une histoire tout à fait vraie, et qui était à la recherche en fait, des traces de Maradona dans Naples. Parce que les Napolitains vouent un culte à Maradona. Et que donc un jour, il arrive chez un coiffeur, et qui avait un petit hôtel religieux avec une photo de Maradona et une photo de Jésus. Et il sort son appareil photo, et il demande au coiffeur, est-ce que ça vous dérange si je photographie votre petit hôtel ? Et le coiffeur lui dit, attends, j'enlève Jésus.
Eh oui, j'enlève Jésus pour la photo devant le dieu Maradona. Alicia, c'est vrai qu'à Naples, il revêt une dimension religieuse, Maradona.
Oui.
C'est presque un demi-dieu, c'est un saint. Oui. C'est Santa Maradona à Naples.
Oui, et on écrivait Maradona avec deux N, comme la Madonna.
Bien sûr.
Voilà. Et San Gennaro, il représentait tout ça. Il représentait quelqu'un qui venait de l'histoire la plus ancienne de Naples, à la fois païen et chrétien. Mais attention, derrière tout ça, il y a l'ironie napolitaine. Ils sont passionnés et ils sont en même temps ironiques par rapport à eux-mêmes. Il ne faut pas croire à 100% à cette passion déchaînée. Quand vous disiez tout à l'heure quand Maradona a été montré pour la première fois quand il est arrivé à Naples, à l'Estadio San Paolo, on ne l'a pas fait jouer cette première fois, mais on l'a montré. Il fallait le voir. Il y a la petite chanson « Ho visto Maradona, j'ai vu Maradona », il s'agissait de le voir. Et quand il sort, on voit la photo, il était
c'est
tout très impressionnant.
Cette photo est très belle.
Oui. Extraordinaire, dans un couloir, et quand il sort, et la foule ouvre la bouche pour hurler son nom comme s'ils allaient l'avaler, il recule. Mmh. Il a peur, et il avait bien raison d'avoir peur, parce qu'il se mettait dans la gueule de la bête. Hein. C'était un naïf comme nous, Argentins, nous sommes trop jeunes comme population, alors que les Napolitains, ils sont anciens, donc il faut pas rigoler avec eux. Quand il a compris qu'il était le roi de Naples, adoré et en même temps l'esclave de la Camorra, et on la lui a fait comprendre très vite, bon, les choses ont changé.
Dans la gueule du loup, Didier Roustan, c'est vrai, parce qu'il faut comprendre que Maradona est pris au piège à Naples. Il est quasiment prisonnier de la mafia. Ouais. Il ne peut quasiment pas partir de Naples. On le tient, vraiment.
À un moment, effectivement, ça a été très compliqué. De toute manière, le transfert pour l'époque était déjà faramineux. Naples n'était pas un club riche et on dit que c'est la Camorra qui a
la mafia, donc, qui a payé le transfert.
Qui a payé le transfert. Un journaliste de TF1 C'est Alain Chaillou, voilà, avait dit ça en conférence de presse.
Il a payé presque sa tête.
On l'a viré Manu Militari. Oui, c'est vrai qu'il l'a compris. Il y a eu peut-être quelques photos compromettantes, mais à un moment, il voulait quitter Naples, absolument, parce qu'il il n'en pouvait plus. C'était trop, un petit peu sur la fin. Et Ferlaino, le président de l'époque, qui est quelqu'un de pas très fréquentable, ils ont tout fait pour le tenir, parce que Maradona qui quitte Naples, c'est la catastrophe. Mais il est quand même allé au bout. Parce qu'il y a un autre aspect dont on n'a pas encore parlé, c'est que c'est quelqu'un de très courageux. Quelqu'un. Alors, il a un physique de taureau, tu l'expliquais très bien tout à l'heure, Alicia, c'est un taureau, ça. Mais au-delà de ça, il a un courage physique et mental extraordinaire.
Quand on parle de Maradona, on parle aussi de chute et de déboire, de dramaturgie quasiment shakespearienne. Il y a une date intéressante, on en parlait tout à l'heure, c'est 90, la Coupe du Monde en Italie. Il est héros et roi de Naples, mais lors de la Coupe du Monde 90, il se retrouve dans une demi-finale à Naples. Argentine, Italie, pays hôte de la Coupe du Monde, et il va lui-même éliminer l'Italie par une séance de tir au but. C'est Diego qui élimine l'Italie, et il se retrouve dans une finale à Rome, face à l'Allemagne, qu'on évoquait au début avec Alicia, où tout d'un coup, tout le stade, ce que raconte Alicia, se met à siffler l'hymne argentin. C'est quand même la chute du héros à ce moment-là en Italie. C'est terrible pour lui.
C'est terrible. Alors, évidemment, c'est quand même l'homme qui a éliminé l'Italie. Mais au-delà de ça, l'Italie de... Alors, Rome, c'est le sud, mais l'Italie qui se trouve là, dans le stade, ce ne sont pas essentiellement des Romains. C'est la fameuse Italie du Nord dont on parle, etc. Et tout. Et il devient, Maradona devient effectivement le traître. Mais là où il va pleurer, et là où on va voir sur ses lèvres, à la fin, quand il reçoit la médaille qu'il ne veut pas... Hijo de puta, etc. Oui. Et tout, c'est qu'il a compris.
Fils de pute, hein.
Fils de pute, oui. c'est qu'il a compris à travers le pénalty qui a été accordé aux Allemands, à travers l'arbitre qui était le gendre d'Avlange, etc. Ouais,
c'est
ça, et tout.
C'est un pénalty imaginaire.
Imaginaire, voilà.
Il n'y a pas pénalty. Ils perdent 1-0, voilà. Mais il n'y a pas pénalty.
Il y a deux Argentins exclus pour des raisons quand même très exagérées. Donc, il a compris aussi qu'on lui a volé la Coupe du Monde et que ce sont encore les gens en col blanc qui ont gagné.
Alors, on parlait de la décennie des années 90, qui est donc une décennie un peu de déchets. Quand même pour Diego, il y a le dopage, la cocaïne, les enfants adultérins qui sortent un peu partout, mais ça appartient au personnage. Ça, Alicia en parlait de dribbleur sur un terrain tout à l'heure. Il est très fort, il aime dribbler, il aime jouer. C'est aussi un dribbleur social, finalement. Il aime jouer avec les interdits de la vie, Maradona. C'est aussi ça. Parfois, on est un petit peu outré par ce côté bandit de Maradona, mais si on aime Maradona, on aime tout Maradona.
Oui,
on aime Maradona joueur, on aime Maradona tricheur. On est obligé, non, Alicia?
Oui, je suis d'accord. Les Napolitains qui pleuraient sont des part disait, je préfère pas Pelé parce qu'il boit de l'eau minérale, il s'est couché à 9h, Maradona est autre chose. Mais à propos de ce monde qui est tombé sur sa tête dans les mondiaux 90, au moins un an avant, il avait déjà bravé les autorités, toutes les autorités, celles de l'Italie du Nord. Ferlaino, qui dirigeait le club de Naples, faisait des affaires immobilières avec un groupe de la Camorra, les Giuliano, qui étaient avec l'immobilier, avec les Totonero, c'est le côté illégal du football, et avec Berlusconi. En 88 ou 9, il est allé jouer à Milan. Jusqu'à là, il avait toujours gagné. Et ce jour-là, on lui avait demandé de ne pas gagner. C'est ce que je lui ai raconté à lui-même quand j'étais le voir à Séville, et il riait beaucoup. Il n'a pas pu. Sa jambe gauche est partie toute seule. On ne peut pas demander à Maradona de perdre. C'était un match arrangé, et il n'a pas pu. Et quand le match est fini, il est resté tout seul. Ça, c'est une image qu'on m'a racontée extraordinaire. En train de fêter son propre courage, en train de dribbler tout seul dans le terrain, alors que tous les joueurs se fouillaient comme des rats du terrain, et lui, il est resté tout seul. Et après, il a dit, tout ce qui m'arrive est à cause d'un match que je n'aurais pas dû gagner, et il parlait de ce match interne, italien, Naples contre Milan.
Le Milan de Berlusconi.
Oui.
Un match arrangé.
Voilà, un match arrangé.
Il n'a pas voulu que ce soit arrangé.
Et après, c'est après qu'on a découvert qu'il prenait la cocaïne,
tout est sorti
à ce moment-là, et c'est à ce moment-là qu'on a considéré légalement la cocaïne comme un doping sportif.
Tout le monde sait que Maradona prenait de la cocaïne. Il a commencé à en prendre à Barcelone. Et de toute manière, j'en parlais avec son avocat Bolotnikov, chaque fois il arrêtait le jeudi soir d'en prendre, et comme ça, elle n'était pas dans les urines le dimanche après-midi, au cas où. Mais Diego, toute l'Italie, tout le monde savait qu'il prenait de la cocaïne, je veux dire. Mais il prenait pas de la cocaïne pour être plus performant, au contraire, il l'était moins par la force des choses, puisqu'il se diminuait et sa carrière aurait été encore plus fantastique, physiquement en tout cas, s'il n'avait pas abusé comme ça de son corps par rapport à cette drogue. Et s'il dépassait le jeudi, parce qu'il n'était pas toujours très machin, truc, il avait une poche d'urine planqué, qui, ben, enfin bon, tout ça, c'est vieux comme le monde, il n'y a pas que Maradona qui l'a fait. Donc, comme dit Alicia, effectivement, à partir du moment où il a fallu le faire tomber, là, on l'a lâché. La cocaïne, effectivement.
Bien sûr. Ce qui est troublant également, Alicia Ortiz, c'est que la vie de Diego est un peu en écho à celle de l'Argentine depuis les années 80. En gros, les années 80, il est flamboyant et c'est le retour de la démocratie en Argentine, c'est la fin de Videla. Ensuite, les années 90, c'est un petit peu la déchéance, mais c'est aussi le miracle libéral de Carlos Menem.
C'est le libéralisme sauvage.
Voilà, exactement. Ouais. Tout d'un coup, il est au bord de la mort. Les années 2000, l'Argentine est au bord du précipice économique. Tout d'un coup, il y a la renaissance de Diego et le pays va mieux.
Il y a un parallèle.
Mais c'est intriguant. Bien, c'est intriguant.
Non, c'est intriguant. Pas pensé, c'est une belle idée.
Ben oui, c'est intriguant. Il est le pouls, en fait, du pays, Diego Armando Maradona. Et alors, par ailleurs, si on parle de héros populaires en Argentine, ce qui le change des autres, on évoquait ça, Alicia, avant l'émission, c'est que tous les héros populaires argentins sont morts jeunes. Eva Perón est mort à 33 ans d'un cancer. Carlos Gardel, le chanteur de tango, est mort à 44 ans. Che Guevara, évidemment, est mort jeune dans la jungle bolivienne. Lui, il est toujours là.
On m'avait dit que la plus grande perversion de la Camorra avait été de les déshonorer, mais de ne pas les tuer.
Ah, de ne pas l'exécuter, en fait.
Voilà.
Ne pas en faire une légende, finalement.
Non. Apparemment, ils n'ont pas voulu faire un martyr.
Lydia Roustan, un commentaire sur le nom des
yeux du martyr. Oui, mais il paraît... quand on s'est perdu de vue, vers 99-2000, j'étais persuadé qu'à un moment, j'entendrais la radio, ou j'ouvrirais le journal, et je verrais que Maradona... Je ne pensais pas à une crise cardiaque, s'est jeté de là où il était habité, du quatrième étage, désespéré, parce que c'était quelqu'un qui souffrait quand il était sur la fin. Surtout que le football était une soupape pour lui.
C'est bien,
et le fait qu'il puisse plus le pratiquer, qu'il n'ait pas, je veux dire, ses amis, quelques repères, je veux dire, l'entraînement, le match, etc. Et tout, il pouvait rester à dormir 3 jours d'affilée chez lui et souffrir profondément.
Mais justement, Didier Roustan, c'est un artiste, Diego, puisqu'il donnait du sens au jeu. Il apportait une transcendance, il jouait avec ses idées, Diego. Vous êtes d'accord avec ça?
Il était sur un terrain, comme il est dans la vie, totalement imprévisible. Il y a une grande fraîcheur chez Maradona. Il a toujours gardé cette insouciance d'enfant et qu'il avait, je veux dire, dans son jeu. C'est quelqu'un qui dégage beaucoup d'émotions. Et qu'est-ce qu'on recherche dans le sport et notamment dans le football? C'est pas le score, c'est pas ceci, c'est pas cela. C'est de l'émotion, c'est de vibrer, quoi, si vous voulez. Et c'est quelqu'un qui vous fait vibrer. Et c'est pour ça que Maradona est adoré du monde entier dans la mesure où et il suscite une forme de folie. J'ai vécu des moments où on sortait d'un avion avec Maradona à Barcelone, quoi, je veux dire, des choses comme ça. Mais les gens le piétinaient presque, ses filles qui étaient petites à l'époque. Il fallait le toucher. Alicia faisait allusion tout à l'heure à ce côté tactile des gens. Quand il joue avec Argentinos Junior, il y a des images assez connues où on le voit arriver et les gens touchent ses cheveux, touchent déjà, alors qu'il n'est pas encore la superstar.
Comme
et
un d'ailleurs, saint, finalement.
Voilà. Et l'un de ses surnoms, c'est Pelusa. Pelusa, c'est sur une peluche les petites choses, vous savez, qui sortent, quoi. Enfin, qui voilà. Il y a ce côté qui vous rend, c'est Maradona, quoi. C'est il y a une forme, quasi mystique, religieuse. Absolument. Il dégage, et lui sans le vouloir, mais il a ce charisme extraordinaire.
Didier Roustan, si on parle des héritiers, aujourd'hui il y a un joueur argentin, petit, gaucher, brillantissime, Lionel Messi.
Pas aussi petit.
Pas aussi petit, c'est vrai. Mais comment on fait quand on s'appelle Lionel Messi et qu'on a cette espèce de figure tutélaire qui s'appelle Diego Maradona et qu'on n'a pas réussi pour l'instant à gagner une Coupe du Monde pour l'Argentine comme l'a fait Diego tout seul en 86? Comment on vit quand on s'appelle Lionel Messi et qu'on doit supporter ça?
On vit avec cette ombre qui prend beaucoup de place. En plus, Messi, dans le cœur des Argentins, même s'il gagne une Coupe du Monde un jour, rattrapera difficilement Diego Maradona, puisque lui, il est parti très jeune à Barcelone. Il n'a pas joué avec les professionnels, il est originaire de Rosario, donc il n'a pas marqué déjà cette histoire de Maradona avec Boca Juniors. Et au-delà de ça, Maradona, ça va au-delà du football. Il n'y a pas plus je veux dire, simple et commun que Messi, quoi, voilà. Si vous voilà, voulez.
C'est ça.
Voilà, ça, c'est tout
pour
sauf shakespearien. Voilà, pour ne pas dire un petit peu plat.
Ouais, ouais.
Donc, même s'il a ce génie du football en lui, Maradona, c'est beaucoup plus que ça. Mais il y a des grandes similitudes dans le jeu et dans le talent, c'est vrai.
La grande question que j'avais posée à Naples, c'est qu'est-ce qu'il avait de particulier, son jeu ? Et pourquoi les Napolitains hurlaient de bonheur, de plaisir à chaque dimanche? Il y avait deux, il y avait le Vésuve et puis il y avait le Stade Saint-Paul. Il y avait deux volcans. Mmh. Et parce que c'était un intuitif, parce que on ne savait jamais ce qu'il allait faire. Il me disait, si on met les possibilités des jeux d'un joueur normal, excellent, mais normal dans un ordinateur, on arrive à quelque chose avec Diego. C'est pas possible. On ne savait pas pourquoi, mais lui non plus. Mais il y avait une chose qui m'avait dit ce Signorini, qui était son entraîneur.
Fernando, entraîneur physique.
Qui était un poète. Et
oui,
qui
très bien, Fernando.
Lui lisait de la poésie à Maradona. Et Valdano, Jorge Valdano, qui était très politisé, lui lisait du Platon. En lui disant, voilà ce que Platon dit d'un sportif. Il ne doit pas être le meilleur, le premier, mais donner le meilleur de soi-même. Bon, alors, Signorini me disait, tu sais, Diego, quand il joue, c'est un excellent joueur. Mais quand il tire la langue, il entre dans un autre état d'extase absolue. Et c'est ça qui provoque l'extase dans le public. Parce que là, tout est possible. En tirant la langue. C'est curieux parce qu'il y a une psychologue argentine qui a fait des études sur la langue avec des musiciens et des danseurs qu'il fait tirer la langue parce qu'il y a un rapport avec les muscles profonds. Je n'en sais rien. En tout cas, c'est connu cette histoire de la langue, mais que Signorini me dise, c'est là qu'il joue d'une manière intuitive, extatique, comme un poète maudit, tout ce que vous voulez.
J'aimerais qu'on termine par le moment légendaire, la Coupe du Monde 86, quart de finale contre l'Angleterre. Diego Maradona marque deux buts, un but de la main de Dieu, puis un but de génie, peut-être le but du siècle même. Il remonte le terrain tout seul, passe sept Anglais, je crois, avant de marquer. Quel souvenir vous avez d'hier au stand vous avez commenté le match, j'imagine.
Non, mais j'étais au stade Aztèque.
Ah, au Mexique.
Voilà.
Quel souvenir vous avez de ce moment-là?
Le sentiment d'être un privilégié et de pas tout comprendre parce que ça va tellement vite. C'est après, en revoyant les images, etc. et tout, de la main sur le moment, je ne la vois pas, mais c'est tout Maradona, je veux dire, ce côté clair-obscur dans
ce match. Le tricheur et le génie.
Oui, mais tricheur, c'est un enfant de la rue, quoi. Je veux dire, dans la rue, c'est pas pour le dédouaner, mais je veux dire, on cède de la main. Si il y a quelque chose, on est roublard, etc. et tout. Thierry Henry a mis une main, d'autres grands joueurs ont mis la main. Bon, le fait que ce soit Maradona, évidemment, ça entre dans la légende. Mais pour ce but, et ce but est extraordinaire parce que j'en parlais avec Jorge Valdano, qui était ailier gauche. Et il me dit, Maradona est un phénomène. Sous la douche, je dis, mais Diego, pendant toute l'action, je te suis à gauche et je pense qu'à un moment, tu vas me la donner. Et Maradona lui répond, pendant toute l'action, je t'ai regardé et je me disais, est-ce que je la lui donne? Est-ce que je la lui donne pas? Est-ce que je la lui donne? Et puis, c'est pas un vantard, Maradona. Bon, il est au-dessus de ça. Ouais. Et il me dit, c'est Dieu. Parce que comment dans une action comme ça, où chaque fois que vous en passez un, on arrive à un autre, etc., vous pouvez avoir un coin de votre cerveau et de votre regard qui suit la progression de votre partenaire et vous posez la question. Donc, c'est... on parlait de ce côté instinctif.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Quelqu'un de rationnel aurait fait cette passe. Maradona n'est pas rationnel.
Didier, une petite chanson pour finir ou pas? Vous en êtes capable, je sais. Vous me l'avez fait tout à l'heure avant l'antenne.
Oui.
Allons-y.
Oh, mama, sabes por qué perché mi corazón. Ho visto Maradona, ho visto Maradona, mama, etc. etc.
Merci beaucoup à vous deux.
Grande Diego.
Merci beaucoup à vous deux. Pour en savoir plus, lisez le livre d'Alicia Duronay-Ortiz, ça s'appelle Maradona et moi, c'est la découverte.
C'est comme Madame Bovary.
Exactement, voilà. Exactement, Madame Bovary et moi.
Maradona, c'est un très beau livre que j'ai découvert en son temps, donc c'était quoi, 93, 94
Absolument.
Et
c'est
dont je me suis inspiré pour un documentaire.
Excellent livre.
Voilà, c'est du Maradona.
On va continuer à causer de Diego Maradona en musique avec la victoire en chantant, le rendez-vous de Pierre-Étienne Minonzio, plume de l'équipe, notre partenaire cette année, du Diego tendance pop latino. Pierre-Étienne, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors, dans la continuité de cette émission, vous allez nous parler ce soir des chansons écrites en l'honneur de Maradona.
Oui, en 2014, alors que je rédigeais un livre sur les liens entre le football et la musique, j'ai recensé une cinquantaine de morceaux qui avaient été composés pour lui rendre hommage à travers le monde. Mais en réalité, j'étais loin du compte. Il suffit de taper le nom de Maradona dans une plateforme de streaming pour faire apparaître soudainement des centaines de titres qui évoquent l'Argentin.
Vous les avez tous écoutés ?
Une grande partie, on va dire. Enfin bon, j'y ai passé du temps et ça m'a permis d'isoler mes quatre chansons favorites consacrées à Maradona.
Ah.
Alors, il s'agit d'un classement subjectif dont j'ai écarté les morceaux, on va dire, les plus évidents, comme la Mano de Dios, qu'on a entendu dans cette émission, et ou les titres de Manu Chao.
Très bien. Alors, avec quel morceau vous allez débuter votre top 4?
Alors, avec une chanson enregistrée à Naples, intitulée Maradona est milieu et Pelé, ce qui signifie Maradona est meilleur que Pelé. Cette ode explicite a été enregistrée par un chanteur local, Emilio Campassi, en 1984, avant même que Maradona ne signe à Naples, preuve que la ferveur là-bas était telle qu'elle avait précédé l'arrivée de l'idole. Maradona, moga saika, levanchin los por navacha sagita. Maradona, rumbos balla, tuvo nois y frada vale sin mamá. Maradona, piense que tú, si por un succede, un succede tú.
Très 80s en effet. Alors quel est votre troisième morceau favori de ce top 4 consacré au Pibe de Oro?
Il s'agit de Dieguitos et Mafaldas. Il date de 1999. Son auteur, l'artiste espagnol Joaquín Sabina, très engagé à gauche, il raconte de manière imagée comment, à l'âge de 20 ans, Maradona avait guidé Boca Juniors vers le titre de champion d'Argentine en 1981. Ça commence comme ça.
20 años cosidos a retazos de urgencias, de simulos y rutinas. 20 años cumplidos en mis brazos con la carne del alma de gallina.
Alors avançons dans votre classement, Pierre-Etienne. Quel titre occupe la deuxième place?
Eh bien, c'est un morceau sorti juste avant la Coupe du Monde 2010, quand Maradona était le sélectionneur de l'Argentine. Une équipe que The Dirty Nines, un groupe de rock irlandais, a choisi d'encourager avec Ballad of El Diego, un titre très orchestré qu'on croirait tiré d'une bande originale d'un film de James Bond. For the streets of Buenos Aires, for the passion shining through on the fields of southern Africa, where your sons will fight for you. They'll spill blood and sweat and tears and run to ground if they have to. They're from Argentina and they won't lie down for anyone.
Ballad of El Diego. Alors, on est impatients de savoir quelle est, selon vous, la plus belle chanson jamais composée à la gloire de Maradona.
Eh bien, sans surprise, elle vient d'Argentine. En 1999, le rocker Andrés Calamaro a dégainé un morceau engageant, simplement intitulé Maradona, qui décrit l'ancien numéro 10 comme un guerrier doté d'un don céleste et qui rappelle la joie enfantine que suscitait le spectacle de ses exploits sur le terrain.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas, es la Biblia junto al calefón, y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón.
Alors, que disent au final ces quatre chansons de Maradona?
Bon, on a là des titres au style très divers, composés par des artistes originaires de pays différents et qui révèlent des facettes bien distinctes de Diego Maradona. Bref, ces quatre morceaux témoignent bien du fascinant bouillonnement musical qu'a suscité ce joueur hors norme. Un phénomène unique dans l'histoire du football, et même sans doute dans l'histoire du sport en général.
Merci Pierre-Étienne. Diego est mort. Vive Diego.
À la semaine prochaine.
Salut Pierre-Étienne. Et voilà, cette émission a été mise en onde ce soir par François Audouin. Merci François, assisté à la technique aujourd'hui de Tiffany Battistel. Merci à elle, merci à toute l'équipe de l'Œil du Tigre. On se retrouve la semaine prochaine avec un des plus grands clubs de football du XXe siècle, détesté par les nazis car jugé trop cosmopolite, comprenez, trop juif. On vous racontera l'histoire du Bayern de Munich, l'esprit bavarois. Rendez-vous dimanche à 18h10. Et d'ici là, passez une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.